Interview.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur les ondes FM en 107.5 ou alors mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au téléphone aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Guenanten. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Guenanten, vous faites partie du comité de soutien pour Vicenzo. Et pour cela, vous êtes au micro pour nous parler de ce délibéré qui a été rendu hier, ce mercredi 4 novembre, sur les conditions de Vicenzo. Alors, qu'en est-il ?
Eh bien, disons que c'est déjà un grand soulagement pour nous. On n'est pas loin d'une victoire. Faut dire qu'on a fait tout un travail depuis maintenant 16 mois pour justement aider à sa défense. Et donc plutôt satisfait, soulagé. Malgré tout, il reste toujours le risque que le procureur décide de se pourvoir en cassation. Donc ça, il a 3 jours pour le faire. Donc on ne saura que lundi soir si le parquet, en fait, fait une cassation ou non. Donc il y a déjà ce risque-là. Je le dis parce qu'on s'est fait chauder une première fois quand le tribunal de Rennes avait libéré Vincenzo Vecchi et le procureur avait été en cassation. Donc voilà, pour être clair, on va attendre vraiment lundi soir pour être sûr de crier victoire, en partie, en tout cas. Et après, reste un petit reliquat de peine, en fait. L'Italie a des procédures un peu particulières et il saucissonne les peines en différents délits, en fait. Et donc, on a gagné sur le plus gros délit qui était celui de dévastation et pillage. Alors, dévastation et pillage, c'est ce délit qui était issu d'une loi mussolinienne de 1930 et qui permettait donc entre 8 et 15 ans de prison à des gens ayant participé à, on va dire, des émeutes. Par contre, ce chef d'inculpation pose problème dans le sens où il est basé sur le concours moral à des actions. C'est-à-dire qu'il suffit d'être présent à un endroit, à une manifestation où il se passe des délits, pour être considéré comme participant à ces délits. Et donc c'est quelque chose en droit italien qui existe, mais qui n'existe pas en droit français. Et c'est donc là-dessus qu'on a gagné hier à Angers, ce qu'on appelle la double incrimination. À l'époque des faits en Italie, il n'y avait pas d'équivalence en France de la loi Rocco, de la loi dévastation et pillage. Donc par rapport à ça, la Cour a décidé de ne pas emprisonner Vincenzo Vecchi sur cette base-là, sachant qu'il ne pouvait pas se défendre au niveau individuel, c'était vraiment une responsabilité collective et ça n'existe pas en droit français. Donc on peut être que soulagé, a priori, donc il ne fera pas ses 10 ans de prison. 10 ans de prison, c'est considérable, c'est une peine qu'on peut même attribuer à un délit, à un crime, en tout cas en France. Et lui n'a fait que manifester en Italie. Était présent effectivement sur des lieux où il y a eu des exactions, mais il n'y a pas de preuve formelle de son implication. En fait, il est juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, on ne peut être que soulagé de cette décision. Par contre, on reste effectivement vigilant par rapport au risque de cassation, au risque que le procureur se mette en cassation, quoi. Oui.
Je reviens à l'origine de cette histoire, donc ces manifestations à Gênes, c'était en 2001, merci. Et combien de personnes avaient été justement inquiétées par les forces de l'ordre ou la justice à ce moment-là, en plus de Enzo
Vincenzo Vecchi, oui. C'était ce qu'on appelle un contre-sommet au G8. Le G8, c'était donc les 8 présidents des plus grandes puissances qui se réunissaient à Gênes. Et donc, il y avait un contre-sommet organisé par ce qu'on appelle des altermondialistes. Et ils étaient 300 000 personnes lors de ces manifestations. Par contre, il y a eu une maîtrise très, très chaotique de la police, qui a d'ailleurs été poursuivie par la Cour européenne des droits de l'homme, pour actes de violence, de torture, enfin ça a été vraiment loin. Ça a été un vrai chaos au niveau de la police. D'ailleurs, même le chef de la police l'a reconnu des années après. que effectivement rien n'avait été maîtrisé et qu'il y avait eu énormément de violence du côté de la police.
Il y a eu homicide. Alors, même.
Il y a eu un homicide, oui, celui de Carlo Giuliani qui a pris une balle en pleine tête d'un carabinier italien. Donc ça a été loin. Il y a aussi une école Diaz où dormait un certain nombre de gens de toute l'Europe qui s'est fait attaquer en pleine nuit et ils se sont fait matraquer, ils se sont retrouvés à la prison Bolzaneto. Il y a eu des actes de torture pendant 24 à 48 heures. Enfin, ça a été très loin, quoi. Et donc les émeutes qui ont eu lieu à Gênes ont été en grande partie liées justement à ce chaos, au fait que la police a foncé dans le tas, en fait, sans différenciation entre les personnes. Et ça a créé une situation d'émeute. Il a été fait état de 10 000 émeutiers à Gênes. Et au final, une quarantaine de personnes se sont retrouvées inculpées, et pour finir à 10 personnes. 10 personnes ont été inculpées au bout du bout, donc les 10 qu'on a appelés les 10 de Gênes. Et ils ont pris tous donc entre 8 et 15 ans de prison, liés à cette loi mussolinienne qui permet justement ce niveau de condamnation. Et alors ce qu'on constate aussi, c'est que dans les 10 de Gênes, il n'y a aucun représentant syndical, aucun représentant d'association qui était présente à Gênes. C'est des personnes isolées, quoi. On a vraiment l'impression qu'il y a, c'est des gens qui ont été pris pour l'exemple, quoi. Depuis le début, nous, c'est ce qu'on dénonce. C'est, voilà, ils se sont fait arrêter. Alors, concernant Vincenzo Vecchi, 16 mois après les faits. Donc, il s'est fait arrêter chez lui au petit matin. Et, par contre, dans les actes d'accusation, on peut lire qu'il s'est fait arrêter les armes à la main à la manifestation. Enfin, il y a des choses très fausses dans le dossier depuis le départ. L'Italie a fait un certain nombre de mensonges, la justice italienne. Et bon, c'est là-dessus que nous, on a beaucoup appuyé la défense de Vincenzo Vecchi. Et ça a donc été reconnu par et la chambre d'accusation de Rennes et la chambre d'accusation d'Angers. Donc, c'est quand même deux chambres d'instruction qui disent qu'on avait raison dans notre défense. Donc voilà, on est assez satisfait de tout ça, bien sûr. Alors, reste un reliquat de peine, comme je vous disais au début. Donc, c'est 10 ans pour le délit de dévastation et pillage. Et restaient des petites incriminations, on va dire, un an et deux fois 9 mois. Là, liées à des violences présumées, alors sur un photographe, et sinon sur le fait de transporter des armes. Alors... même là-dessus, on se défend parce qu'il a été établi qu'il n'y a jamais eu d'armes à Gênes, qu'il y a eu certains cocktails Molotov, mais apportés par la police dans l'école d'IA, justement, ce que je vous expliquais tout de suite. Et par contre, on considère qu'il y a des armes par destination. Effectivement, à un moment, il y a une photo où Vincenzo a une planche à la main, on considère que c'est une arme. Ce reliquat de peine, donc c'est trois petites peines parce qu'effectivement, dans le droit italien, on morcelle les peines. Alors c'est un peu particulier, mais c'est le fonctionnement italien. Et donc, il reste ces trois petites peines. Donc, le tribunal a décidé de demander un complément d'information en Italie, en demandant en Italie s'ils étaient donc d'accord avec les décisions de la justice française et s'ils étaient d'accord pour que cette peine, ce reliquat de peine soit fait en France. Donc, en fait, on doit attendre maintenant jusqu'au 30 novembre. L'Italie a jusqu'au 30 novembre pour répondre à cette question du tribunal de l'instance d'Angers. Et donc, il y aura une nouvelle audience. Alors, je crois le 30 novembre ou après le 30 novembre, en tout cas, pour décider de ce reliquat. Donc, au final, où ce reliquat est aménagé en France, où Vincenzo fera un peu de prison en France, ou éventuellement il serait remis à l'Italie. Mais là, nous, on n'a aucune confiance parce que depuis le début, la justice italienne ment dans ce dossier. On a soulevé plusieurs mensonges. Et donc, nous, de notre côté, on n'a vraiment pas confiance en la justice italienne. Donc, s'il doit y avoir reliquat et s'il doit se faire, effectivement, nous, au niveau de la défense, on voudrait que ça se fasse en France et non en Italie. Parce qu'on n'a aucune garantie. S'il est ramené en Italie pour ce reliquat qui correspond à un an, deux mois, 23 jours, qui nous dit que l'Italie ne va pas le garder pour les 10 ans? Est-ce qu'ils vont accepter le délibéré du tribunal d'Angers? Enfin, ça, il reste des questions. Donc, on reste quand même très vigilant. On n'a pas confiance en la justice italienne et on reste très vigilant. Donc là, oui, la justice italienne a jusqu'au 30 novembre pour répondre à cette demande du tribunal d'Angers, quoi, sur ce reliquat. Peut-il se faire en France et est-ce qu'il valide le résultat du tribunal d'Angers, quoi? C'est un peu ça la question, si j'ai bien compris.
Et le droit européen existe-t-il dans cette affaire?
Ben, il existe plus ou moins à travers le mandat d'arrêt européen. En fait, le mandat d'arrêt européen, c'est un accord cadre dans le cadre de Schengen, donc un accord entre les différents pays européens pour faciliter des transactions, on va dire, juridiques d'un pays à l'autre. cette loi s'est faite au moment du terrorisme, donc avait toute sa raison d'être, on va dire, c'était permettre à des pays de pouvoir expatrier éventuellement des gens liés au terrorisme ou au grand banditisme, en tout cas. Or, le cas de Vincenzo Vecchi n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et donc, il y avait la possibilité, justement, d'étudier la peine italienne sur la proportion de la peine et sur la double incrimination. D'ailleurs, c'est là qu'on a gagné. La double incrimination, c'est est-ce qu'en droit, il existait l'équivalent de dévastation et pillage en France en 2001 ? Or, non. Il n'y avait aucune loi dans le droit français qui était proche de cette loi de dévastation et pillage. Et donc, la France a décidé, ben non, effectivement, au niveau double incrimination, ça ne fonctionne pas. À la même époque, en France, il n'y avait pas l'équivalent. Donc, on ne peut pas accepter que Vincenzo Vecchi fasse ses 10 ans de prison pour une loi qui n'existe pas dans le droit français. Et donc, c'est ce qui a permis le mandat d'arrêt européen. Par contre, ce mandat d'arrêt européen pose quand même un vrai problème. Par exemple, si effectivement Vincenzo fait son reliquat de peine en France, le mandat d'arrêt européen court toujours dans les autres pays européens. Ça veut dire qu'il sera peut-être à terme libre en France, il ne sera jamais libre en Europe, ni en Italie. Tant que l'Italie n'a pas retiré ce mandat d'arrêt européen, il continue à courir dans les autres pays d'Europe. Donc ça pose un vrai problème quand même au niveau européen. Ce mandat d'arrêt européen n'est pas suffisamment borné à notre goût. Et effectivement, si tous les pays sont des vraies démocraties, tirent le droit vers le haut, c'est plutôt une bonne chose. Mais dans les faits, on se rend compte que des dérives autoritaires peuvent arriver, y compris en Europe, et qu'on n'est pas à l'abri, dans ce cadre du mandat d'arrêt européen, d'avoir des manipulations, comme l'a fait l'Italie dans ce dossier. Il y a eu énormément de manipulations, dont un premier mandat d'arrêt européen concernant une manifestation à Milan, alors que la peine était éteinte, donc ce mandat d'arrêt n'aurait jamais dû exister. C'était un faux, et dans une affaire, il y a le droit à l'oubli. Donc quand ils ont produit ce mandat d'arrêt européen, c'était un faux. Le mandat d'arrêt européen concernant les événements de Gênes, il manquait la cassation qui avait eu lieu en Italie en 2012. Enfin, vraiment, l'Italie a donné des informations fausses ou tronquées qui n'ont pas facilité du tout la défense. Et au final, la chambre d'instruction de Angers a reconnu tout ça. Donc on ne peut être que satisfait aujourd'hui, même si Vincenzo n'est pas complètement libre. Il y a déjà une perspective et il ne va pas passer le reste de sa vie en prison. Enfin, c'est quand même une grande victoire, malgré tout ça, quoi.
Actuellement, Vincenzo Vecchio, où réside-t-il ?
Alors, c'est mon voisin. Moi, il habite à une cinquantaine de mètres de chez moi. Il habite à Rochefort-en-Terre. Il travaille. Il est en CDI dans une boîte de construction de maisons passives. Ben voilà, c'est quelqu'un de très intégré localement, depuis le début d'ailleurs. Hein. Depuis le début, en fait, quand cette histoire est sortie, on n'a pas compris, on a été très étonnés, et surtout, on avait le récit de quelqu'un d'activiste, enfin de quelqu'un... c'était pas du tout l'image qu'on avait de ce personnage. Nous, on le connaît, on le côtoie au quotidien, c'est quelqu'un de très sympathique, qui rend des services, qui est très agréable, enfin, qui est très vite rentré dans la vie du village sans problème. Et le personnage qui nous était décrit dans la presse correspondait pas du tout à la personne qu'on connaît. Donc je pense que ça a beaucoup compté sur le fait qu'on se mobilise et qu'on cherche à comprendre le fin fond de l'histoire. Et heureusement, je crois qu'on a fait tout ce travail-là au niveau du comité de soutien. D'ailleurs, merci à tout le monde du comité de soutien parce que ça a été un vrai travail d'enquête pendant 16 mois. Et on a trouvé des pièces en Italie. Enfin, on a vraiment fait un gros travail qui a profité à la défense. Mais l'autre problème qu'on peut soulever là-dedans, c'est que si Vincenzo Vecchi était arrivé dans un village complètement isolé, il aurait été seul pour se défendre, il n'aurait jamais réussi à se défendre comme on a pu le défendre, au niveau financier et au niveau moyen humain pour aller dégoter des pièces juridiques en Italie. Enfin, on a vraiment fait un gros travail, mais ça pose quand même la vraie question de la possibilité de se défendre dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. Vincenzo Vecchi a pu se défendre grâce à un beau comité de soutien. Quelqu'un d'autre, n'étant pas accompagné, aurait été ramené en Italie et aurait été donc victime de manque de moyens pour se défendre. Donc ça pose quand même un vrai problème. Le mandat d'arrêt européen au niveau donc de l'Europe devrait quand même être bétonné plus, et ça pose un vrai problème au niveau de la défense des personnes.
Il existe donc ce comité de soutien. On peut rappeler de nouveau les contacts ou les visibilités sur Internet.
Oui, alors notre comité, c'est donc www.comité-soutien-vincenzo.org. Et effectivement, il y a beaucoup de matière, on a fait beaucoup de recherches et on a compilé tout ça sur notre site. Donc c'est assez intéressant si vous voulez refaire l'historique de toute cette histoire. Je pense que beaucoup d'éléments sont réunis sur le site pour pouvoir le faire justement. Ce que Gênes a été oublié rapidement, Gênes, c'était le 23 juillet, il me semble, 2001. Et il y a eu le 11 septembre 2001, juste après les tours jumelles aux États-Unis. Et donc, cette information a vite disparu, en fait, a été oubliée. Mais c'est une vraie cicatrice pour les Italiens. Beaucoup d'Italiens témoignaient dans ce sens-là. Depuis Gênes, il y a eu très peu de mobilisation sociale. Ça a marché, en fait. Les gens ont hésité à aller dans la rue, risquant justement des peines très fortes. Et donc, ça a cassé le mouvement social en Italie, quand même, de façon assez flagrante.
Malgré l'alternance des pouvoirs, par exemple, ou des politiques au pouvoir ?
Bah, étonnamment, oui. Au moment où Vincenzo Vecchi s'est fait arrêter, c'était Salvini qui était ministre de l'Intérieur, donc quelqu'un franchement à droite. Et donc, on avait fait le lien avec ça, mais depuis, le gouvernement a bougé, a changé, et le mandat reste présent. Donc, c'est un peu étonnant, effectivement. Alors, moi, je ne connais pas trop la politique italienne, mais c'est un peu compliqué, visiblement. Et on est un peu étonné, effectivement, que ce mandat ait été relancé en 2016. Pourquoi ? Comment ? Enfin, c'est un peu étonnant, tout ça, effectivement.
L'administration continue de rouler, voilà.
Ben, oui.
Qu'est-ce que vous a fait découvrir cette histoire de Vincenzo Vecchio, vous en tant qu'habitant d'un petit village ?
Ben, ça nous a fait découvrir pas mal de choses. Je pense qu'on est monté en expertise sur beaucoup de choses, en particulier ben, le mandat d'arrêt européen. On a décortiqué un peu la loi cadre concernant ce mandat d'arrêt européen. Donc on a effectivement avancé beaucoup en expertise. Je pense même qu'on a créé une jurisprudence parce que cette notion de dévastation et saccage, aujourd'hui, ne pourra plus être prise en compte en France du fait du résultat du tribunal d'Angers. Donc c'est une réelle avancée, il nous semble. Et par ailleurs, nous, on a appris aussi à se connaître entre nous parce que on savait qu'on était sur un territoire riche, dynamique, avec beaucoup de solidarité, mais là, on l'a mis en exergue, et c'est très intéressant. On s'est découvert les uns les autres, on a découvert des compétences chez les uns, chez les autres. Enfin, on a vécu alors une histoire pas facile, parce que c'est dur à vivre, mais très, très riche au niveau relations humaines, et déjà là-dessus, on a tous grandi, je pense. Après, ça a mis le doigt aussi sur le fonctionnement de la justice, c'est quelque chose de complexe. Il faut être entouré, il faut avoir des bons avocats, il faut avoir des bons conseils. Là aussi, on a trouvé des bonnes personnes autour de nous pour nous informer, nous décortiquer les lois. Enfin, c'est vraiment, on a appris, je pense, beaucoup, mais on se rend compte quand même que tout ça est fragile, aléatoire. Et voilà, on est satisfait parce qu'aujourd'hui, on a très bien avancé dans l'histoire. Mais ça aurait pu être le contraire. Enfin, ça tient à pas grand-chose quand même. Et voilà, on est satisfait, on est très content de s'être impliqué à ce point-là. On ne pensait pas qu'on partait sur un marathon de 16 mois, voire plus, parce que ce n'est pas terminé. Mais ceci dit, ben oui, en se disant, si on prend les moyens, si on serre les coudes, ben, on peut aboutir à quelque chose. Donc plutôt satisfait de la justice française. Par contre, on ne reste pas confiant du tout en la justice italienne. Ça, c'est une leçon pour nous aussi.
Vincenzo Vecchio est la problématique principale de votre comité. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que vous êtes sollicité pour d'autres affaires qui sont un peu du même ordre ?
Alors, pas vraiment. Il nous est arrivé de nous mettre en relation avec d'autres collectifs, mais ce n'était pas vraiment des problématiques similaires. Par contre, on a beaucoup fouillé justement les jurisprudences. Par exemple, on sait que la Grèce a pris la même décision que la France il y a plusieurs années déjà. Un dissident grec était recherché par l'Italie justement pour une manifestation également. Et la Grèce avait répondu, ben non, dévastation et pillage, ça n'existe pas, nous, dans notre droit, donc on refuse. Donc c'est déjà arrivé. En France, je ne crois pas. Et effectivement, du coup, on s'est penché sur d'autres mandats d'arrêt européens, enfin, dans nos recherches. Donc ça nous a fait découvrir un peu tout ça. Et donc c'est intéressant, même au niveau européen, c'est pas inintéressant, mais quand même c'est quelque chose de un peu aléatoire à notre goût et de dangereux par rapport justement aux dérives autoritaires. Donc il semble que ce mandat d'arrêt européen devrait être revu, revisité et blindé pour pouvoir justement permettre la défense des gens qui sont soumis à ces mandats d'arrêt européens, ça paraît normal de pouvoir se défendre. La liberté individuelle, c'est quand même un droit inaliénable et c'est très important, quoi.
Jean-Pierre Guénanten, quelle est l'actualité à l'avenir pour le comité de soutien de Vincenzo?
Alors, on a une actualité à très court terme, c'est d'attendre jusqu'à lundi soir pour être sûr que la Cour de cassation ne se pourvoie, que le parquet ne se pourvoie pas en cassation. Donc, ça, c'est la première étape à très court terme. On a aussi une tribune qui sort aujourd'hui, je crois, dans Le Monde, avec plusieurs personnalités, alors politiques ou non, mais qui justement nous accompagnent depuis le début dans cette histoire. Et voilà, je pense, se félicite de dit un peu ce que je vous ai dit aujourd'hui, mais reste aussi vigilante par rapport justement au risque d'un pourvoi en cassation, quoi. C'est un peu notre crainte aujourd'hui. Et puis après, on va avancer un peu au jour le jour. On va attendre jusqu'au 30 novembre pour voir si l'Italie répond ou non aux sollicitations de la justice d'Angers. Puis à partir de là, il y aura une nouvelle audience sur ce reliquat de peine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, je pense qu'on va sortir de l'histoire. Mais bon, voilà, c'est vraiment un combat de longue haleine. Alors, tout est relatif, hein, mais ça va faire donc presque ces 16 mois à l'heure actuelle, et donc peut-être une vingtaine de mois pour arriver au bout du bout. C'est vraiment épuisant, hein, c'est pas facile pour des gens comme nous, des gens lambda, mais voilà, on regrette pas d'avoir soutenu notre ami, et ce qui est important pour nous, c'est que notre ami sorte de prison et puisse commencer une vie normale, enfin, avec, entre autres, une fille qu'il a quasiment pas vue depuis sa naissance. Enfin, il y a beaucoup d'implication au niveau humain, au niveau de sa vie à lui, et enfin pouvoir se projeter, c'est pas rien pour lui qui, depuis 2001, a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Jean-Pierre Guénanten, je vous remercie en tout cas de nous avoir donné un peu de votre temps pour le soutien envers Vincenzo Vecchio.
Ben merci à vous aussi de nous suivre dans cette histoire, parce qu'on avait besoin d'appui, et merci à toutes les radios qui nous suivent d'ailleurs.
Je vous souhaite une bonne soirée, au revoir.
Merci, vous aussi, au revoir.